Bonjour à tous, particulièrement à ceux qui préfèrent les places en arrière. Merci de me laisser les places devant. C'est une étrange habitude que nous avons dans beaucoup de nos églises. Ça fait plaisir d'être de retour. Tout à l'heure, on parlait et je pense que la dernière fois que j'étais parmi vous, c'était avant le Covid. Dans ce bon vieux temps où tout était encore plus ou moins normal. Ça fait d'autant plus plaisir d'être de retour un peu à la maison. J'ai habité pendant 3 ans dans cette maison. J'ai été baptisé dans ce temple. Je me suis marié dans ce temple. Quand il y avait encore écrit sur le mur là, sur les photos de notre mariage, il n'y a que les derniers mots. Les péchés de plusieurs. Et je n'ai jamais oublié cela, même si on les a effacés et qu'on a repeint tout ça. Nous avons commencé notre culte avec la lecture du psaume 27. Et je vous relis juste le verset 4, où Olivier tout à l'heure nous a lu. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. C'est tout à fait à propos. Parce que j'aimerais vous parler du psaume 84, qui est dans un psaume entier la traduction de ce seul verset du roi David au psaume 27, mais qui est ici écrit de la main des fils de Corée. Et si vous l'avez devant vous, vous pouvez suivre la lecture avec moi. « Oh, que j'aime tes demeures, éternel, Seigneur des armées célestes. Je languis et je soupire, éternel, après tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte. L'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits. Près de tes autels, éternel Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu, bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis, et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît, et ils se présentent à Dieu en Sion. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière. Veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob. Toi, ô Dieu qui nous protège, veuille regarder celui que par ton onction tu as établi. Il s'agit du Messie, David à l'époque, le Christ, bien sûr. Fais-lui bon accueil, car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants. Car l'Éternel est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde grâce et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Prions. Merci Seigneur pour ta merveilleuse parole. qu'elle soit la nourriture de notre âme, qu'elle soit la lumière de nos yeux. Et Seigneur, que par elle, puisses-tu nous conduire jour après jour dans cette nouvelle semaine et dans ce qui nous reste à vivre dans cette vie ici-bas. Seigneur, éclaire-nous par ton Esprit Saint. Seigneur, sans cela, nous serions perdus. Mais Seigneur, tu nous l'as donné pour qu'il nous éclaire et nous t'en bénissons. Au nom de Jésus. Amen. Imaginez que demain commence la persécution en Belgique. Je n'ai pas eu une révélation. Je ne pense pas que c'est pour demain. Mais ça pourrait être pour bientôt. Imaginez que comme au Burkina Faso, on vient à la porte du temple, on pénètre Kalachnikov à la main et on dit que tous ceux qui veulent tenir à Jésus-Christ seront invités à venir derrière et seront passés par les armes. Et on va commencer avec le pasteur. Et on raconte comment, peu à peu, l'Église s'est vidée et presque tous ont été passés par les armes. Imaginez que demain commence le règne de l'Antichrist. Là, c'est un peu plus près de nous, parce que fort probablement, c'est à Bruxelles que ça va se faire, que ça va se concrétiser. Si tel était le cas, et nous entrons dans une nouvelle année, et qu'on nous dit les vœux de bonheur pour la nouvelle année, dans les deux cas, quel serait notre bonheur? Qu'est-ce qui nous donnerait la force et le courage, non pas seulement à vivre un autre jour, mais à glorifier Dieu? Ce psaume est un psaume qui, à trois reprises, reprend le mot « bienheureux » et marque ainsi les trois strophes de ce psaume. Les premiers cinq versets avec ce refrain « Bienheureux ceux qui habitent ta maison ». Puis la deuxième strophe qui commence « Bienheureux les hommes », littéralement « Bienheureux l'homme », le hébreu porte le nom Adam ici, « Bienheureux Adam », dont toi, tu es la force. Et à la fin, dernière strophe, bienheureux l'homme, toujours Adam, qui met sa confiance en toi. Trois bonheurs, trois besoins, trois choses sans lesquelles nous ne pouvons pas avancer en tant que chrétiens, en tant que disciples du Seigneur Jésus. Quels sont ces trois besoins fondamentaux? Une maison, la force et la confiance. Commençons avec le premier. Un endroit où on est chez soi, dans un temps où il y a tant de personnes sans domicile fixe. Quelle bénédiction quand nous avons un endroit que nous pouvons appeler le nôtre, où on est à l'abri. Un endroit d'où je ne peux pas être chassé par le premier venu. En hébreu, le mot maison, nous le connaissons, bet. Jacob avait été en fuite devant Ésaü à un endroit où Dieu se révèle à lui, et puis en se réveillant, il dit, c'est véritablement Beth-El, la maison de Dieu. La forme un peu plus longue du même mot est le mot Bayit, et vous avez peut-être entendu parler, sans doute plutôt en français qu'en hébreu, du Har HaBayit, le mont, la montagne de la maison. Bien sûr, quand je le dis comme ça, ça ne réveille pas nécessairement grand-chose dans votre tête. Mais la maison a un double sens en hébreu. La maison, c'est notre maison, nos maisons, mais c'est aussi la maison de Dieu, donc le temple. Har HaBayit, c'est le mont du temple. C'est là où Dieu a choisi d'établir sa demeure, la maison par excellence. Vous voyez, Dieu ne veut pas que je sois SDF spirituel. Il veut que je sois à la maison chez lui, que sa maison soit ma maison. Nous parlons parfois de la maison du Père, et souvent c'est un peu lié à la mort, à après, mais je pense que la Bible parle d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je suis invité à résider dans la maison du Père. Vous voyez, Dieu allume dans notre vie le désir de sa maison. Si cela n'est pas un feu qui brûle en vous, c'est que tout simplement, vous n'avez pas encore tout compris et vous n'êtes peut-être pas encore vraiment devenu chrétien. Dieu veut que je désire sa maison. Une des choses que je pense Dieu a appréciée chez le roi David, c'est cette soif qu'il chante à plusieurs reprises, dont dans le psaume 27, cette soif d'être dans la maison de l'Éternel. Bien sûr, on ne parle pas d'un bâtiment de culte. Vous avez un beau bâtiment de culte. Moi, je fais partie d'une église de maison. Cette maison n'est pas la maison de Dieu, pas plus qu'une autre. La maison dont il est question ici est bien sûr là où Dieu est présent. Et c'est ce que dit le psalmiste. « Oh, que j'aime tes demeures, je languis et je soupire après tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. » Un lieu où je peux déposer mes bagages, où je peux pousser mes racines, où je peux appartenir à quelqu'un et quelque part. D'avoir un lieu fixe, même quand le monde entier devient instable. Et Dieu sait combien il le devient. Vous avez sans doute remarqué qu'il y a en nous une lutte, parfois une lutte âpre, entre nos envies et nos besoins. Tout parent qui a élevé des gosses sait exactement de quoi je parle. Nous avons tous été confrontés aux envies de nos enfants. Et nous avions en vue leurs besoins. Je pense à tant de publicités où on voit des parents donner du grand n'importe quoi à leurs enfants parce que « Maman, je veux ça !» La lutte entre nos envies et nos besoins. Ce n'est pas fini quand on a grandi, bien sûr que non. Jusqu'à notre mort, probablement. Cette lutte continue. La lutte entre nos plaisirs et notre bonheur. Parfois, les actualités nous le rappellent avec un peu d'amertume. Comme tous ces jeunes qui avaient envie de passer le nouvel an dans un lieu de plaisir, dans ce bar à Cran Montana. Est-ce que c'était pour leur bonheur? Vous m'avez compris. La lutte entre nos squats et notre maison. Dieu veut que je vienne à la maison. Dieu veut que je rentre. Pas que je meure, je ne serai sans doute jamais aussi vivant que quand je serai enfin là-haut, mais même ici-bas, et surtout ici-bas. Dieu veut que je rentre, comme ce jeune homme. Vous connaissez sans doute son histoire. Il avait vu les tentations et les offres de la vie loin de chez son vieux et de son frère qui ne pouvait pas piffrer, ce véritable pharisien. Et ayant réussi à soutirer un sac de pognon à son papa, il est parti, fier, jouir enfin de la vie, enfin vivre son plaisir, pas nécessairement son bonheur. Il allait squatter en quittant la maison du Père. Et vous savez comment finalement Dieu utilise des évangélistes hors pair pour le ramener à son bon sens. Des cochons. Ça, c'est l'histoire du fils prodigue, des fils prodigues. Mais ça peut aussi se passer autrement. Un jour, Jésus, parcourant la campagne de la Galilée par une journée d'été chaude, dit à l'un de ses disciples quand il passe pas loin d'une maison, « Mon cher disciple, est-ce que tu veux aller demander un verre d'eau pour moi ?» Et le disciple, tout heureux, tout fier de pouvoir servir son maître bien-aimé, va à la maison, toque à la porte, et une fille belle comme la lune ouvre la porte. Et le disciple tombe éperdument amoureux. Il oublie tout. Maintenant qu'il est devant cette jolie jeune fille, et ils vont se marier, ils vont avoir deux beaux enfants, et ça roule. Puis commence l'année horrible. L'année où meurt d'abord sa femme. Puis, un peu plus tard, ses enfants. Puis, encore plus tard, ses beaux-parents. Et il est assis dans les larmes, dans l'amertume, dans la déprime, la tête entre ses mains, et il pleure. Et puis, tout à coup, une voix derrière lui. Mon cher disciple, as-tu trouvé mon verre d'eau ? Vous voyez, il y a plusieurs façons de nous perdre, de perdre la maison où nous sommes heureux et où nous pouvons être heureux parce qu'on ne peut pas être heureux ailleurs. Pas tant que tu n'es pas rentré auprès de Dieu. Dieu veut que je rentre chez lui. Et je ne parle vraiment pas du décès. Au verset 4, permettez-moi de souligner un autre point. Le moineau découvre une gîte, l'hirondelle, un nid près de tes autels. Le psalmiste, un lévite, observe que autour de l'autel des holocaustes qui se trouvait devant le temple à l'extérieur, des moineaux et des hirondelles avaient trouvé leur demeure. Et il les envie. C'est un curieux endroit pour trouver un gîte. Cette grande boîte en Hérin, d'où sort en permanence la fumée des sacrifices, jour après jour après jour après jour. Le lieu où l'odeur du feu même me rappelle que mon péché m'empêche d'habiter dans cette maison. Je ne suis pas le bienvenu. Le feu du jugement qui brûle et qui brûle en moi tout ce qui ne peut pas subsister dans cette maison-là. Et cet endroit devient le gîte du repos de l'hirondelle et du moineau. L'endroit protégé où la grâce révèle un avenir qui jusque-là était impossible à cause de qui je suis. L'autel dans le tabernacle et dans le temple dans l'Ancien Testament correspond à la croix dans le Nouveau Testament. Tous les autres éléments du temple et avant cela du tabernacle se retrouvent dans le ciel de Dieu. Moïse avait vu le modèle, comme David plus tard, pour que la maison qu'ils allaient bâtir ressemble à la maison originelle, sauf l'autel. L'autel n'a pas son alter ego au ciel. L'autel appartient à ce bas monde où règne le mal. L'autel, c'est la croix, le terminus, à moins que... Le « à moins que » de Dieu, quand Dieu endosse mon péché, ma culpabilité, et que son pardon constitue le seul droit pour que je puisse habiter dans sa maison, chez lui, et que sa maison devienne ma maison. « Heureux, » dit le psalmiste, « ceux qui habitent ta maison. » Notre premier besoin, c'est cela. Tant que tu n'es pas rentré, ton besoin principal, essentiel, n'a pas encore trouvé réponse. Mais une fois qu'on est là, voilà qu'un deuxième besoin s'ouvre à nos yeux. Heureux l'homme, c'est au singulier en hébreu, dont tu es la force. La deuxième chose dont j'ai besoin, c'est de la force. Et ça tient du fait qu'il y a une différence entre notre monde et le monde hébraïque. Chez nous, le bonheur est un état. Je suis heureux. En hébreu, le bonheur est un chemin. En hébreu, le bonheur est un chemin où je dois marcher droit. C'est de là que vient le mot « bonheur » en hébreu, du verbe « tracer un chemin droit ». Dès que nous nous levons de la croix où nous avons trouvé le repos et le pardon, nous sommes lancés sur le chemin. Nous ne sommes pas invités à nous installer dans une chaise longue en attendant que les anges ouvrent enfin le grand spectacle de la fin. Non, 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 non. Nous sommes conviés à aller de l'avant. Où ? Ah, mais c'est clair, c'est marqué là. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Vous ne pouvez pas trouver dans la Bible une mention plus claire du GPS originel. Vous trouverez dans votre cœur le chemin qui doit être tracé par vos pas. Nous sommes lancés sur un chemin précis. La carte est implanté en nous par Dieu. Dès que je me lève, je suis attendu ailleurs. Je dois aller plus loin. Et le texte nous dit où nous sommes attendus. Il se présente, au verset 8, il se présente à Dieu en Sion. Vous voyez, dès que je me lève à la croix de Christ, je deviens sioniste. Et juste pour que vous ne me compreniez pas mal, je deviens sioniste selon Dieu et comme Dieu, car Dieu est sioniste. Dieu n'aime aucun lieu autant que Sion. C'est là où il a choisi de résider. Et inimaginable pour nous. Pensez au règne de David et de Salomon. Dieu était présent. La nuée de la présence et de la gloire de Dieu avait descendu sur ce lieu. Dieu était là. C'était le ciel qui touchait la terre. C'était le royaume de Dieu dans sa première phase. Dieu était présent. Et Dieu implante l'amour de Sion dans le cœur de ceux qui sont à la maison chez lui. Ce n'est pas facile, parce que notre monde n'aime pas Sion. Notre monde a une haine profonde pour Sion. Alors quand, en tant que disciple de Jésus, j'ai l'amour de Sion, je suis quelque part sur une course de collision avec notre monde. Nous aurons besoin de force et de courage si nous voulons avancer sur ce chemin que l'Esprit de Dieu a tracé dans notre cœur. La force, pour quoi faire ? Entre au début décembre, pendant 15 jours avant Noël, Valérie et moi, nous avons eu la grippe, une bonne vieille grippe comme on n'avait plus eu depuis des longues années. Et quand, après une semaine, on jugeait que ça devait être terminé, et je vais au culte où je devais prêcher, et l'après-midi, la bête se réveille une deuxième fois. Et on est parti pour une deuxième semaine. On n'était pas tant terrassé par la fièvre, mais pendant 15 jours, on n'avait plus de force. Vous connaissez, quand même porter votre fourchette à votre bouche vous semble trop fatigant. Vous avez connu cela. La force. On a besoin de force. Pourquoi ? Mais le texte nous le dit. Lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis. Alors, dans votre Bible, c'est peut-être marqué « vallée du baumier » ou « vallée des mûriers » et c'est tout à fait ce que porte le hébreu. Mais beaucoup de traductions, dont le Semeur que je lis ici, ont choisi un mot qui sonne exactement pareil, « baka ». Mais dont la dernière lettre, qu'on entend guère, est différente. Et par assonance, ces traductions ont cru que le psalmiste parlait des pleurs et des larmes. Laissons cela. Ils font une oasis de la vallée des larmes. Leur défaite se transforme en victoire. Le désespoir devient espérance. L'arrière-toute de l'enfer devient un progrès vers la cité céleste. Un peu comme Abraham dont Hébreux 11 me dit que c'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu et il leur a préparé une cité. Je me lève à la croix et le GPS divin dans mon cœur trace le chemin vers Sion. Dieu me donne la force. Pas toujours évident. Il en faut de la force. Et parfois, le manque de force nous fait pleurer à la porte du ciel. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la force. Le verset 9, la dernière ligne de cette strophe nous dit « Éternel, Dieu des armées célestes, entends ma prière, veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob. » On lit cela, vous et moi, quand on lit notre Bible, ça c'est connu, c'est enregistré dans le compartiment « chose connue, Dieu de Jacob », on sait ce que ça veut dire et on passe notre chemin. Mais que veut dire « Dieu de Jacob » Peut-être que pour les fils de Corée, cela avait un sens plus profond. Vous voyez, les fils de Corée étaient les descendants miraculés de Corée le rebelle. Le Lévite qui voulait avoir la place de Aaron, si pas celle de Moïse. Et qui avait péri avec tous les siens, à l'exception de ses fils. Et celui qui a écrit ce psaume est un descendant de cela. Pas de très très loin, peut-être 400 ans, tout au plus. Ça, c'était son passé. Il avait survécu là où il aurait dû mourir avec le rebelle que fut son ancêtre. Mais Dieu avait décidé de faire grâce, comme il a fait grâce à Jacob, le faux, le rebelle, l'homme qui avait besoin de personne pour tracer sa route, l'orgueilleux, l'homme qui avait toujours une solution, jusqu'à ce que Dieu le rencontre dans le gué du Yabok, à l'endroit qui va avoir le nom ensuite de Péniel, la face de Dieu. Et Jacob, le fort, devient dépendant de Dieu qui le touche à l'articulation de la hanche. Le tricheur ne sera jamais aussi fort que quand il devient dépendant de Dieu. Et le Dieu de Jacob, s'il a pu écouter la prière du tricheur que fut Jacob, pensez-vous qu'il pourrait écouter votre prière, ma prière? Sûrement, Dieu de Jacob, écoute ma prière. La troisième chose dont j'ai besoin, c'est de la confiance. Si tu n'as pas confiance, la vie s'arrête. Quand un mari n'a plus confiance dans sa femme ou la femme en son mari, en général, c'est la fin du mariage. Quand je n'ai pas confiance que je suis sur le bon chemin, je vais finir par m'asseoir, par me coucher et par mourir. Je serai déprimé parce que je ne vois plus le chemin, parce que je me dis que ça ne sert à rien. je n'ai plus confiance. Quand j'ai confiance, j'ai l'idée de persévérer, quoi qu'il arrive. J'ai confiance. C'est parce que j'ai confiance que je peux faire des choix intelligents. Il faut une sacrée confiance pour certains choix. Lisez ce qui est écrit là au verset 11. « Car un jour dans tes parvis vaut bien mieux que 1000 ailleurs. » 1000 jours, ça fait 3 ans à la grosse louche. Un jour contre 3 ans. La Bible de Jérusalem traduit joliment « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 à ma guise. » J'aime bien cette traduction. Parce que c'est là notre problème. Nous finissons tellement souvent à agir à notre guise, comme je le veux. Quand j'ai confiance, je peux choisir ce qui semble un choix complètement stupide. Un jour dans ses parvis, plutôt que 3 années à ma façon. Mais quand j'ai confiance, je vois les choses autrement. Quel choix mieux vaut? Dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a un chapitre où il y a toute une liste de ces mieux vaut. Juste un. Mieux vaut écouter les reproches d'un homme sage que les flatteries des insensés. C'est encore aussi actuel aujourd'hui au XXIe siècle qu'au jour où Salomon a écrit cela dans le livre de l'Ecclésiaste. Un choix, un tri, un discernement. Je sais ce qui vaut mieux pour moi. Cette lutte entre mes envies et mes besoins, entre mes plaisirs et mon bonheur, est tranchée dès que la confiance en Dieu, en mon cœur, se ravive. Sur quoi est fondée cette confiance? Pour terminer, à la fin de ce psaume, laissez-moi vous le résumer. Tout d'abord, ma confiance est fondée en qui Dieu est. Il écrit « L'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil. Il est comme un bouclier. » Dieu veut que je voyage de jour. C'est tellement plus agréable que de voyager de nuit. Il est un soleil dans ma vie. Et devant les rencontres incertaines de la route, il est un bouclier. Donc, je peux avoir confiance. Je peux avoir confiance parce que Dieu est un Dieu qui donne. L'Éternel donne grâce et gloire. Alors tu peux voir venir. Si Dieu te donne la grâce pour aujourd'hui et la gloire en promesse pour l'éternité, mes amis, tu peux faire ta route avec confiance. Oui, mais est-ce que Dieu a les ressources pour faire ça? Je peux vraiment lui faire confiance? N'est-il pas pauvre comme Job? Non, il n'est pas pauvre comme Job. Le texte nous dit au verset 13, « Éternel, Seigneur des armées célestes. » Alors si Dieu a des armées gigantesques à son appel, c'est qu'il a les ressources pour venir à mon secours. La clé, c'est de lui faire confiance. Sans la foi, vous connaissez ce texte en Hébreux 11, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi, c'est bien sûr le même mot que la confiance. 3 besoins. Habiter auprès de Dieu. Recevoir la force de Dieu et exercer la confiance en Dieu. J'aimerais prier avec vous en me servant d'une prière écrite par un serviteur de Dieu qui avait donné sa vie aux soins des pauvres. Priez avec moi. Seigneur, quoi d'autre que toi pourrais-je désirer? Tu es mon Seigneur, le Seigneur de mon cœur, de mon esprit et de mon âme. Tu me connais de part en part. En toi et par toi, tout ce qui est trouve son origine et son but. Tu embrasses tout ce qui existe et tu en prends soin avec une compassion et un amour divin. Pourquoi alors continuer à chercher bonheur et satisfaction ailleurs qu'en toi? Pourquoi alors continuer de te traiter comme l'une de mes nombreuses relations et non comme ma seule et unique relation, fondement de toutes les autres? Pourquoi rechercher la popularité, l'estime, le succès, les éloges et les plaisirs sensuels? Pourquoi, Seigneur, m'est-il si difficile de faire de toi le seul et l'unique? Pourquoi continuer d'hésiter à me donner totalement à toi? Aide-moi, Seigneur, à laisser mourir mon vieux moi, à laisser mourir les mille et un moyens, grands et petits, que j'utilise encore pour édifier mon faux moi et essayer de m'accrocher à mes faux désirs. Fais-moi renaître en toi. Fais-moi voir à travers toi le monde tel qu'il est, pour que toutes mes actions, mes paroles et mes pensées puissent devenir un hymne à ta louange. J'ai besoin de ta grâce aimante pour cheminer sur cette route difficile qui mène à la mort de mon vieux moi et à une vie nouvelle en toi et pour toi. Je sais et j'ai confiance que c'est là la route de la liberté. Seigneur, dissipe ma méfiance et aide-moi à devenir un ami confiant.